VOA Afrique.
I have a dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver comme toutes les semaines dans l'Amérique et vous sur VOA Afrique. Nous émettons depuis Washington DC aux États-Unis. John Lyndon à la présentation, Georges Léonard Sagno et Sims Lumami sur la production de cette émission qui est mise en onde notre ami Aiden Otko. Voilà, installez-vous confortablement et on se retrouve juste après. Selon une étude du HCR, la Libye est de loin le point de départ privilégié des réfugiés et des migrants espérant rejoindre l'Europe, et ce malgré l'insécurité. Cette année seulement, et à la date du 25 août, au moins 2420 personnes sont décédées ou portées disparues durant la tentative de traversée, avec le plus grand nombre de décès survenus sur l'itinéraire dit de la Méditerranée centrale via la Libye. De façon très préoccupante, le rapport a constaté que presque tous les réfugiés et les migrants qui viennent en Libye ont recours à des passeurs ou des réseaux criminels qui facturent actuellement des frais d'environ 5 000 $ pour rejoindre le pays. Mais si très souvent on ne parle que des migrants africains qui souhaitent rejoindre l'Europe via la Libye, de plus en plus d'Africains tentent aujourd'hui leur chance vers les États-Unis en passant par le Mexique. Un véritable parcours de combattants que nous allons évoquer dans cette émission avec Arzuma Compaoré, envoyé spécial de VOA Afrique au Texas, et un migrant qui est passé par là, il s'appelle, on va l'appeler Steven, dans cette émission. Notre émission de ce soir s'articule donc autour d'une question. Que pensez-vous de ces migrants africains qui quittent leur pays pour rejoindre l'Europe ou les États-Unis, parfois au risque de leur vie? Nous vous donnons la parole dans l'Amérique et vous. Vos commentaires et réactions sont les bienvenus sur Facebook et en direct au 001-202-205-2623. Vous pouvez également suivre cette émission en direct sur voafrique.com. On va accueillir nos invités. Arzuma Compaoré, bonsoir.
Bonsoir John.
Voilà, je ne suis pas mandaté pour ça, mais je voulais quand même vous dire félicitations pour le bon travail que vous faites au Texas. Bienvenue dans l'Amérique et vous.
Merci à vous.
Voilà, on a également Steven qui est originaire du Cameroun et qui est venu aux États-Unis. Il est parti du Cameroun avec sa femme enceinte et son, il me semble, un enfant de 4 ans. Steven, bonsoir.
Bonsoir.
Voilà, merci du temps que vous avez accepté de nous accorder. Vous êtes en fait au travail, vous avez dû prendre une petite pause pour cela. Arzuma Compaoré, déjà décrivez-nous l'ambiance qui règne là-bas à la frontière entre ceux qui sont au Mexique et qui veulent traverser aux États-Unis. Quel est le climat?
Alors, je m'excuse d'abord parce que, comme vous l'avez dit, je suis toujours au Texas, plus précisément dans la ville d'Austin. Et comme vous savez, nous avons une alerte à l'ouragan. Et l'ouragan vient juste de se déclencher là, donc vous allez entendre les bruits un peu sur le toit. Hein. Mais bon, j'espère que le son
ne
va pas être un problème.
Ça va.
Très bien. Alors, pour revenir à la question, effectivement, c'est le nouvel Eldorado, en tout cas, pour beaucoup d'Africains. Les Africains qui passent par le Mexique souvent viennent par là parce que c'est soit par comment on peut expliquer ça, c'est souvent le besoin de trouver des issues beaucoup plus sûres, beaucoup plus certaines. Souvent aussi c'est juste par un rapport qu'un ami qui vous a conseillé, en passant par le Mexique, vous allez y arriver, ça va être plus rapide. mais c'est surtout parce que lorsqu'ils arrivent au niveau des centres d'immigration, ils ont la possibilité tout de suite d'engager une procédure de demande d'asile. Et lorsque vous êtes dans ce, lorsque cette procédure-là commence, il y a beaucoup d'avantages, il y a beaucoup de possibilités maintenant qui s'offrent. Mais ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours le cas parce que certains viennent avec l'espoir de trouver une certaine protection de la part des États-Unis et ils se retrouvent détenus comme des criminels dans des centres de détention. Ce qui était quelque chose dont personne n'en parle, personne ne leur dit à l'avance que quand ils vont arriver au niveau des frontières, au niveau des centres d'immigration, on va les mettre en prison. Et
voilà.
Ça, souvent, c'est un choc.
Voilà, vous restez avec nous, Arzuma, et faites attention à l'ouragan. Steven, bonsoir encore. Vous, je le disais tout à l'heure, vous êtes originaire du Cameroun. Racontez-nous comment vous en êtes arrivé à vous retrouver ici aux États-Unis.
Bon, une fois de plus, bonsoir à tous les panélistes. Bon, mon histoire n'est pas très différente de certaines personnes. Le mien, je quitte le Cameroun précisément au mois d'octobre, lorsque le Cameroun se trouve dans une situation d'impasse, de crise et d'instabilité politique. Alors, j'étais confronté à des poursuites, ce qui m'a nécessité de quitter le pays pour pouvoir trouver un endroit où je pourrais être sûr. Donc, la première idée qui est venue dans ma tête n'était pas aller aux États-Unis, mais c'était d'avoir un endroit sûr. Alors, je quitte mon pays, je passe par le Nigeria, où j'ai fait pratiquement une semaine et demie. Mais étant au Nigeria, je n'étais toujours pas en sécurité. Parce que vous le savez bien, le Nigeria et le Cameroun, c'est comme Laredo, Mexique et Laredo, États-Unis. Donc, j'ai suivi des rumeurs et certaines informations qui disaient, voilà, certaines autorités ont envoyé des pions dans des pays voisins pour traquer ceux-là qui ont pris refuge dans des pays voisins. Alors, étant concerné, je me suis rendu compte que le Nigeria, bien entendu, ne devait pas être un endroit sûr pour moi et ma famille. Alors, je quitte le Nigeria, passant par le Mexique. Et lorsque j'arrive au Mexique, ça a été très, 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 très facile pour moi.
Vous avez passé déjà, combien de temps au Mexique?
Pratiquement 3 mois. Mmh. Pratiquement 3 mois au Mexique. Et toujours là-bas, ça n'a pas été facile parce que déjà, le Mexique, comme vous le savez, est un pays où il y a beaucoup de désordre. Et en plus, cette période de décembre, il y avait un soulèvement au Mexique qui a touché pratiquement toute la population. C'était le fait qu'on avait augmenté le prix du gaz. Alors, beaucoup de gens se sont lancés dans la rue et il y a eu bien évidemment, des délinquants qui partaient dans des supermarchés, ils cassaient, ils volaient et beaucoup d'autres choses. Alors, un matin, lorsque moi je me réveille, je partais dans un supermarché pour acheter du pain et de la farine pour la maison. Lorsque j'ai été interpellé une fois de plus par les autorités mexicaines, notamment la police fédérale. Alors, ils m'ont posé plein de questions, de savoir où est-ce que je vis, je sors d'où et beaucoup de choses. Lorsqu'ils ont remarqué que je n'étais pas mexicain, je n'étais pas du pays latino, comme certains noirs, c'est comme ça qu'ils m'ont mis beaucoup de pression. Ils sont arrivés chez moi, ils ont vandalisé ma maison, ils recherchent ce que je ne connais pas, ils disent que sûrement, c'est nous qui avons fait des vols et beaucoup d'autres choses. Alors voilà même la raison qui me pousse de me diriger vers les États-Unis.
Voilà, vous gardez la suite de l'histoire. On va déjà accueillir Georges Léonard Sagnot. Georges, bonsoir.
Oui, salut John, et je voudrais féliciter Steven qui a un témoignage très poignant.
Voilà. Arzuma Compaoré, dans votre série cette semaine, vous nous parliez des gens qui ont un parcours un peu plus long que celui de Steven. Lui, il est parti du Nigeria au Mexique directement, mais vous parliez de ceux qui passent au Brésil et par une série de pays avant même d'arriver au Mexique et surtout qui traversent la forêt amazonienne.
Tout à fait. C'est une pratique assez courante. Ils se retrouvent par groupe de 50 environ. Et ces groupes-là, à l'aide justement de passeurs, vont traverser le Brésil, le Pérou, l'Équateur, la Colombie, le Venezuela, le Costa Rica, le Nicaragua, le Guatemala, pour arriver maintenant en fait au Mexique. Et c'est là maintenant qu'ils pourront atteindre la frontière américaine. Et donc ce passage, c'est un passage très dangereux pour plusieurs raisons, vous pouvez vous imaginer. Déjà, traverser la forêt amazonienne, c'est très hostile, que ce soit en termes de les animaux, et la difficulté même de pouvoir traverser cet endroit.
Tout à fait.
C'est très difficile. Mais c'est par stratégie. Ils se mettent par groupe, par affinité. Ceux qui parlent les mêmes langues, ceux qui viennent des mêmes zones, ils essaient de créer en fait des groupes comme ça, des petits binômes où ils peuvent ensuite progresser ensemble.
Voilà. On va prendre un auditeur au téléphone, Tedoum Osana. Bonsoir.
Oui, bonsoir, bonsoir à tous les auditeurs.
Voilà. Vous vous dites que chacun de ceux qui viennent a sa raison.
Oui, parce que si on essaie de voir ce qui se passe actuellement en Afrique, on ne peut pas du tout condamner ceux qui ont décidé de quitter le continent, parce que il y a trop de difficultés en ce moment. Par exemple, moi j'accuse justement nos dirigeants qui ne font pas grand chose pour les jeunes gens qui sont obligés d'abandonner leur pays et décider de partir pour peut-être trouver mieux en Europe. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui ont fini les études n'ont pas un travail. Le taux de chômage est vraiment élevé et la corruption, le planisme fait que les jeunes ne peuvent pas supporter longtemps à vivre un calvaire quotidien. Alors, ce problème nécessite vraiment des grands efforts de la part de nos dirigeants. Sinon, c'est vraiment malheureux.
Voilà.
Les gens qui ont décidé de risquer leur vie, ils quittent leur pays. C'est vraiment dommage. Ça.
Voilà. Merci beaucoup, Tidou. On va revenir un peu sur Steven. Steven, une fois donc au Mexique, comment se passe l'étape de la traversée jusqu'aux États-Unis?
Bon, généralement, le Mexique doit partager plusieurs frontières avec les États-Unis. Bon, certaines personnes, notamment les Latinos, et le plus souvent, elles ne vont pas à la frontière parce que ce n'est pas des raisons personnelles, mais elles préfèrent traverser par la rivière. Alors, une fois traversées par la rivière, elles se retrouvent aux États-Unis. Si, par chance, il n'y a pas de contrôle, vous trouvez une fois votre chemin, mais si vous êtes arrêté, alors vous serez ramené dans un centre de détention. Entre part, il y a d'autres personnes, comme nous par exemple, nous avons opté le chemin de la frontière. Alors je quitte du Mexico, c'est-à-dire Mexico City, pour Monterrey, une ville frontalière, toujours avec les États-Unis, et de Monterrey, je pars à Laredo. Une fois à Laredo, je me présente à l'immigration, justement, c'est ce que j'ai fait. Mais, malheureusement, la première fois que je me suis présenté à l'immigration, c'était le samedi 28 janvier, aux environs de 19h30, 20h. Alors, j'ai été arrêté par la police de frontière et qui m'ont dit non, je n'avais pas le droit de traverser. Quand je leur ai dit, mais là où je sors, je suis persécuté et en même temps j'ai une femme enceinte, j'ai un enfant en main, tout ça, ils ont dit non, vous ne pouvez pas entrer parce que vous n'avez pas un visa. Alors je n'avais pas autre chose à faire que de retourner au Mexique. Bon, jusque-là, le lendemain, qui était dimanche, j'ai dit que bon, c'est un jour de grâce, il faudrait que je tente une deuxième fois. Alors, lorsque j'arrivais dans ce pont, parce que nous avons un pont qui divise la frontière du Mexique et celle des États-Unis, j'ai trouvé donc un très long rang. Il y avait beaucoup de personnes ce matin qui traversaient, qui partaient travailler aux États-Unis et d'autres sortaient des États-Unis pour se retrouver au Mexique. Donc, moi, je me suis présenté avec ma famille et dès lors, un officier d'immigration s'est présenté et il nous a posé certaines questions dont je lui ai expliqué encore pourquoi je suis là. Et là, ils ont appelé un autre officier qui était chargé des immigrants. Alors, celui-là est venu, il nous a pris et nous sommes allés dans son bureau.
Voilà.
Donc là où, ouais.
Ah, voilà. Justement, vous parlez du bureau, je ne sais pas, Georges, vous voulez réagir?
Oui, la première fois que Steven a été donc contacté ou en contact avec l'immigration, quelle a été la réponse? On lui a dit que tu ne peux pas rentrer et il n'a pas été arrêté. Je comprends qu'il est reparti. Est-ce qu'on vous a retourné pour aller encore au Mexique ou est-ce que vous êtes resté sur le territoire américain? Comment ça s'est passé? Cette partie-là m'a semblé un peu confuse.
Bon, ok. Généralement, merci. Généralement, c'est un pont qui va de au moins un kilomètre. Alors, de l'autre bout, c'est la frontière de l'immigration américaine, et de l'autre bout, c'est la frontière mexicaine ou l'immigration mexicaine. Alors, ce trajet-là, qui va au moins sur de 600 à 700 voire 800 mètres, ça n'appartient à personne. Du moment où vous restez là, vous n'êtes ni au Mexique, ni aux États-Unis. Bon, mais puisque nous ne pouvons pas rester là-bas parce que c'est juste un pont, il n'y a pas d'abri et il pleuvait même ce jour, ben il fallait que je rentre totalement hors de ce pont et me retrouver de l'autre côté qui est le Mexique.
Voilà. Alors, Arzuma Compaoré, est-ce que vous avez vu au cours de votre enquête sur place d'autres nationalités, d'autres Africains, quels sont leurs problèmes et est-ce qu'il y a espoir, comme Steven, qu'il puisse être admis aux États-Unis légalement?
Alors, pour beaucoup, une fois que l'immigration prend acte de leur cas, de leur situation et que le projet de demande d'asile est enclenché, ils sont plus ou moins sur la route. Et donc, c'est comme ça que nous avons réussi à discuter avec des ressortissants de l'Éthiopie, de l'Érythrée, du Bénin, de la République démocratique du Congo, un peu clairsemés, mais qui finalement se retrouvent dans des centres d'accueil qui vont leur permettre, qui vont les aider maintenant à poursuivre et à compléter justement ce processus.
Voilà.
Il faut savoir que la difficulté, John, c'est que une fois que l'immigration a votre cas en main, l'immigration ne peut pas de façon ne peut pas vous relâcher comme ça dans la société. Il y a toute une série de background, il y a toute une procédure en tout cas qu'il faut faire pour pouvoir s'assurer que vous n'êtes pas un criminel et que vous n'allez pas mettre la vie des Américains en danger. Et donc les centres d'accueil et justement ces différentes étapes devant le juge vont permettre justement de pouvoir filtrer ceux qui sont une menace et ceux qui ne le sont pas.
Voilà, on va prendre rapidement Diarra Kanyoumé au téléphone. Bonsoir Diarra.
Oui, bonsoir John, bonsoir à toute la rédaction de Zéro Afrique. Je vous appelle depuis dans mon village natal à Soumikini.
Voilà, merci de promouvoir la vie au village. Comment vous réagissez à cette question de cette semaine, ces Africains qui quittent leur pays pour venir en Europe ou aux États-Unis, mais au risque de leur vie?
Ok, merci John pour me donner la parole. Je pense que vraiment, c'est la volonté de nos dirigeants africains parce que les dirigeants africains effient leurs responsabilités. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous, les jeunes africains, on est en train de prendre sur la direction en Europe. Il faut imaginer d'aujourd'hui, les jeunes qui prennent leur direction en Europe, c'est au moins, c'est, si tu as pris au moins 100%, tu vas trouver qu'au moins 95%, c'est les jeunes diplômés sans emploi.
Voilà.
Il faut que les États, voilà, il faut que les États africains doivent créer beaucoup de
d'emplois et de placement de ces jeunes-là. Georges Léonard Sagnot,
Oui, John.
Est-ce que les États ne veulent pas faire ce travail ou alors ils sont un peu dépassés?
Je ne vais pas manquer à la règle. Je voudrais d'abord saluer Arjuma, notre ami, hein, qui est vraiment en train de faire un bon travail sur le terrain. Arjuma, on t'attend ici. Hein. Voilà. Cela dit, il faut dire que les États africains ont failli ou faillissent à leur devoir, parce que, comme dit notre auditeur de Bamako ou du Mali, c'est l'immigration, les pays de départ sont souvent, les jeunes de ces pays-là sont souvent confrontés à des problèmes d'emploi. On parle des petites et moyennes entreprises, mais en fait, il y en a qui vendent même des domaines, des maisons, des biens de leurs parents pour venir aux États-Unis. Si vous vous retrouvez, si vous êtes en Guinée, que vous avez 5 000 $ en main, au lieu d'aller prendre l'avion pour aller aux États-Unis, mais ces 5 000 $ là peuvent vous permettre de créer, n'est-ce pas, un business, John. Mais le problème à la base, c'est que les conditions ne sont pas réunies. Et donc, c'est un peu difficile. Et en fait, les boulots qu'on refuse en Afrique, on vient ici aux États-Unis, quand on vend tout, après avoir tout vendu, appauvrir les parents, on revient ici, on tombe dans ces boulots-là, c'est-à-dire on devient balayeur de rue, on travaille dans des magasins, ainsi de suite, alors qu'on peut rester sur place et faire ces mêmes travaux.
Voilà. Steven, on va vous donner la parole puisqu'on tire un peu à la fin de cette émission. Est-ce que vous conseillerez à quelqu'un qui est au Cameroun, au Mali, au Sénégal, de tenter une aventure comme la vôtre, ou alors c'est quelque chose que vous déconseillez?
Merci une fois de plus pour cette question. De mon humble point d'avis, moi, je pense que le problème, ce n'est pas de quitter le pays, mais le problème, c'est comme un auditeur disait tantôt, est-ce que nous nous sentons à l'aise dans ce pays? Est-ce que des conditions de vivre nous permettent ou alors nous donnent une chance d'évoluer? Parce que l'être humain a besoin de vivre. C'est le survie d'abord le plus important. Alors, mon cas, je ne quitte pas mon pays parce que je voulais quitter mon pays. Déjà, je vous rappelle que dans mon pays, j'étais un agent d'État, j'étais fonctionnaire, alors j'avais une petite vie, au moins c'est un peu normal. Mais lorsque nous nous sommes retrouvés dans une situation où tout le monde s'était et se retrouvait en prison, d'autres se faisaient assassiner, d'autres, il y avait des disparitions. Alors voilà ce qui me pousse à quitter mon pays. Bon, pour d'autres personnes, je ne sais pas si c'est le même cas, mais déjà, si nos pays africains sont sereins, stables, avec un avenir. Donc, je ne pourrais pas penser à mes frères jeunes de quitter le pays, parce que nous avons besoin de tout un chacun, de la jeunesse, de la force, pour pouvoir construire l'Afrique. Alors, moi, je pense que c'est ça mon avis.
Voilà, merci beaucoup Steven pour votre disponibilité. Vous avez pris une pause pour le boulot. Arjuma Compaoré, on va finir par vous. Est-ce que vous avez remarqué, quelle est la tendance là-bas au niveau de ces arrivants? Est-ce qu'ils sont nombreux ou est-ce qu'ils font face à la menace de l'immigration, des services d'immigration, et donc il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent?
Non, je pense que c'est un choix délibéré. Les gens qui viennent par là, ils viennent dans l'intention de vraiment obtenir justement ce papier, cet asile-là aux États-Unis. Le problème, c'est que beaucoup ne sont pas informés ou sont mal informés. Certains viennent et ils pensent qu'une fois qu'ils sont arrivés, les choses vont aller d'une certaine manière. Ils ne sont pas au courant des réalités et c'est un peu le travail qu'on a décidé de faire en mettant un peu d'éclairage, un peu de lumière sur tout ce processus-là, en fait que les gens sachent justement à quoi s'entendre une fois qu'ils arrivent ici et quels sont les documents, quelles sont les épreuves qu'ils vont devoir franchir en tout cas.
Voilà, merci beaucoup Arjuma. Faites attention à l'ouragan. Et Georges, le mot de la fin avant de céder la place à Morgane pour les informations.
J'opterai pour l'immigration choisie que certains chefs d'État dans le monde avaient promis, notamment l'ancien chef d'État français, Nicolas Sarkozy. Il faut que les Africains viennent. S'ils viennent, ils sont qualifiés, ça serait bien. Mais immigrer ou pour le simple vouloir de le faire, c'est un peu difficile.
C'est la fin de cette émission de l'Amérique et vous qui était mise à nom de par Sims Lumami, John Linden. J'étais à la présentation, mon ami Otko assuré la mise à nom de, je vous laisse en compagnie de Morgane Guériec pour les informations. Bonsoir.